Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbwinga Vubu à la présentation.
Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les titres. Félix Tshisekedi appelle les gouverneurs à renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire. Le chef de l'État vient de se prononcer il y a quelques heures à l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs à Kalemi. Un mot dans ce journal sur les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous suivrez des témoignages poignants des femmes victimes des atrocités dans le Nord Kivu. Notre invité est le coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Goma. Il va nous édifier sur la formation qui se tient sur place à l'intention des experts de la police technique et scientifique, ainsi qu'avec d'autres inspecteurs de la police judiciaire et des magistrats du parquet. Les regards des Congolais sont tournés vers Kalemi où vient de s'ouvrir la 11e conférence des gouverneurs. Le président de la République recommande aux gouverneurs de renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire. Félix Tshisekedi demande également aux participants à ces travaux de 3 jours d'affiner des stratégies pour renforcer la collaboration entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. On écoute Félix Tshisekedi qui revient sur l'importance de ces assises dans cet extrait choisi par Paulin Mounanga.
La conférence des gouverneurs de province contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Autre actualité avec ces chiffres, environ 25 millions de personnes sont confrontées à la famine en RDC, parmi lesquelles 3 millions en situation d'urgence dans les sites de personnes déplacées au Nord Kivu. Révélation de la FAO qui lance d'ailleurs un plaidoyer. Cette organisation des Nations Unies constate en effet que l'accroissement des conflits accentue la faim et l'insécurité alimentaire, surtout pour les populations déplacées de guerre. C'est pourquoi la FAO propose la cessation des hostilités et le retour de la paix, mais aussi l'ouverture des axes de desserte agricole comme préalable pour améliorer la situation. Sifa Maguru nous en dit plus.
D'après la directrice générale adjointe de cette organisation, il s'observe un niveau extrême d'insuffisance alimentaire et de malnutrition chez les femmes et les enfants. Pour y faire face, Madame Bechdel évoque une solution à 2 niveaux. C'est notamment d'apporter de l'aide d'urgence aux déplacés qui luttent pour la survie, mais aussi donner à la population plus de semences et de petits bétails pour leur permettre de se relever. Ensuite, il faut penser à développer une agriculture économique et durable, explique-t-elle.
Mais les défis que je vois concernent l'accessibilité à la terre et comment la terre est utilisée. Il y a aussi le fait que l'agriculture dépend aussi des infrastructures. Il faut améliorer les choses de manière à ce que ce qui est produit sur le plan agricole puisse être accessible sur les marchés.
Pour sa part, le coordonnateur par intérim en charge des questions agricoles au cabinet du gouverneur, Bembeleza Kiza, insiste, lui, sur les plaidoyers de la FAO au niveau international pour les retours de la paix.
Et pour accéder à la terre, c'est, n'est-ce pas, restaurer la paix, qui est un facteur primordial. Une fois la population est stable, il y a lieu de lui doter de tous les intrants.
Famagoro Radio Kapi.
Des femmes victimes des violences sexuelles au Nord Kivu frappent aux portes des autorités du pays. Elles demandent plus de protection et de sécurité pour exercer leur activité quotidienne. Ces femmes se sont exprimées ce mardi 26 novembre au cours des activités concernant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Explication avec Emmanuel Elamich Wakabedi.
Les femmes de la province du Nord Kivu évoquent des cas de traumatismes subis comme conséquence des conflits armés. C'est des exécutions arbitraires, des tortures, des violences sexuelles, des mariages forcés et autres. Une survivante des violences sexuelles au Nord Kivu témoigne.
Au Nord Kivu, nous vivons grâce au café et cacao. Mais dans nos champs-là, il y a les ADF. Ils vous imposent de coucher avec eux. Vous n'avez pas de choix, pas d'endroit pour échapper. Vous êtes obligé de céder pour enfin amener les cafés et cacao pour la survie. Moi, personnellement, on m'avait gardé pendant 3 semaines en train de violer chaque jour. Ils couchent avec les femmes sauvagement, donc de la même façon qu'ils tuent les gens sauvagement.
Pour plus de protection et de sécurité, ces femmes demandent aux autorités du pays la relève des troupes militaires qui ont trop duré dans cette zone.
Pour mettre fin à cette situation en Nord Kivu, c'est depuis longtemps qu'on sollicitait qu'on change. Les unités, c'est tous les militaires qui sont là. On change vraiment totalement le militaire de Fardé, c'est surtout ceux qui sont à Kassindjibeni, et on puisse lutter ensemble contre l'impunité.
Signalons que la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes vise la lutte contre l'impunité et l'accompagnement des femmes et filles en situation de violence.
Deux femmes identifiées comme épouses des deux chefs rebelles des ADF aux arrêts, cela se passe au Nord Kivu et c'est la coalition des armées congolaises et ougandaises qui annonce cette nouvelle. Ces arrestations se sont déroulées précisément dans la localité de Beumanyama dans le territoire de Beni. Selon le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 pour le Grand Nord Kivu, ces deux femmes de nationalité burundaise auraient été recrutées à Bujumbura. Elles ont été arrêtées avec leurs enfants pendant qu'elles étaient à la recherche des vivres. Le colonel Mac Azukai appelle la population de la zone à rester proche des positions militaires pour garantir sa sécurité. Sachez aussi que le sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, SPT, effectue sa première visite en République démocratique du Congo du 1er au 7 décembre 2024 pour soutenir la mise en œuvre par l'État partie de son organe de prévention de la torture. Au cours de sa visite, la délégation du SPT rencontrera diverses autorités, notamment des représentants du pouvoir législatif, des juges et des procureurs, ainsi que diverses entités des Nations Unies et de la société civile et visitera également des lieux de privation de liberté. Après la visite, le SPT partagera son rapport avec le gouvernement. Ce document restera confidentiel jusqu'à ce que la RDC décide de le rendre public. La RDC a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2010. Santé à présent, les personnes se trouvant dans la zone minière au sud Kivu où plusieurs cas de variole de singe ont été notifiés sont invitées à revoir leurs habitudes comportementales. Cet appel a été lancé par Tom Van Boven hier mardi lors d'une conférence de presse à Kinshasa organisée par l'Agence américaine pour le développement international. Ce cadre de l'USAID relève la persistance de l'épidémie de monkeypox dans les zones minières au sud Kivu, malgré les efforts déployés par les acteurs humanitaires. Face à la présence d'un nouveau variant se transmettant par les relations sexuelles, il reste convaincu que l'abandon de certains comportements sexuels à risque peut contribuer de manière significative à la lutte contre le monkeypox dans cette zone. Tom Van Boven et dans cet extrait sonore choisi par Ronelli Ntibonera.
Si on parle du Sud Kivu, il y a depuis 2023, on a remarqué et découvert qu'il y a un variant sur cette mpox qui est en fait transmissible par voie sexuelle. Et donc ça veut dire qu'on a deux approches différentes. L'approche que les gens connaissaient dans les zones endémiques, sur lesquelles on travaillait avec depuis longtemps, mais aussi, comme Dr. Yoran vient d'expliquer, au Sud Kivu, il faut rendre compte à la population à quel niveau il faut changer le comportement, en fait. Ce n'est plus de l'animal à l'humain et après par contact prolongé qu'on peut obtenir, mais au-delà de cela, maintenant, c'est aussi par voie sexuelle. Et ça dépend de quel environnement que vous vous trouvez. Dans les sites minières, il y a les populations qui bougent aussi. Donc, c'est une approche différente.
Le village Ngenengene, abandonné depuis une année, motif ce coin de la province de la Tchopo totalement détruit et vidé de sa population suite aux tueries et violences liées au conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. Selon la société civile Saouti Yalubunga, qui revient de cette entité, la forêt a repris son droit de cité. Autrefois, centre commercial et grenier de Lubungu, ce village est devenu quasiment fantôme. Il ne reste plus que des ossements humains ainsi que des ruines de maisons incendié. Si du côté d'Opela, la circulation des personnes a repris normalement, par contre, du côté d'Ubundu, la psychose continue à gagner les habitants de ce village et même les voyageurs. Prince héritier Isomela, président de cette structure citoyenne, plaide pour le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Ses propos sont recueillis par Jacques Mokonkole.
Du côté Ubundu, il y a un problème. La circulation n'est pas encore reprise, surtout sur l'axe Ngenengene. Vraiment, là-bas, il y a un calme total. Les gens en sont toujours dans de fuites. Nous avons trouvé des ossements, quelques corps pourris dans les coins et recoins du village. Puis, nous avons trouvé seulement quelques compatriotes au niveau du village Otobio, là où se trouve le centre hospitalier. Mais les gens ne sont plus dans du village. La majorité des gens sont toujours dans le site de déplacés au centre de Lubunga et aussi au niveau de la rive droite. Et ce que nous allons demander seulement aux autorités de s'impliquer pour que la paix revienne et pour que cela arrive, il nous faut la table ronde comme l'a également souligné le président de la République parce que c'était ça l'initiative de Saouti Yalubunga. Et nous demandons également que les autorités puissent nous chercher la solution par rapport à la situation de la société Cap Congo, le contrat qui a été signé, et aussi des administrations parallèles entre la commune de Lubunga et le secteur de Lubuyabine.
Autre nouvelle, deux agents publics arrêtés emprisonnés pour détournement de fonds dans le territoire de Fechi, dans la province du Kwango. Il s'agit des chefs de service de l'environnement et des infrastructures et travaux publics. D'après le ministre provincial de la justice du Kwango, qui livre l'information, ces cadres ont perçu plus d'un million de francs congolais depuis plusieurs mois dans les salaires des agents fictifs. Timothée Nzundu parle également de la vente des matricules à d'autres personnes. Des détails avec Irène Mbomaluzolo.
Fabrication de fausses procurations dans le but de retirer les salaires des agents fictifs et vente des numéros matricules à des personnes non attitrées. Telles sont les infractions mises à charge de ces deux cadres de la fonction publique de la province du Kwango. Tous deux sont jetés en prison à Fechi, chef-lieu du territoire portant le même nom. C'est le ministre provincial de la justice du Kwango qui livre l'information. Timothée Nzundu.
Les chefs de service ont des fausses procurations, des faux agents qui leur retirent l'argent. Un chef de service, là, chaque mois, obtient au moins 1 600 francs congolais pour des agents qui ne sont pas bien connus dans les services, avec des fausses procurations. Et ces enquêtes ont été faites depuis très longtemps. Nous avons vérifié. En pleine paye, on a compris que les chefs de service continuaient à détourner les fonds. Donc, si on doit prendre 1 600 ou 1 200 francs, tant de mois, il a détourné beaucoup d'argent. L'autre, dans son service, ils sont 25 matriculés payés, mais ils ne payent que 9. Alors, les autres matricules sont vendus aux agents qui ne sont même pas de service.
Le ministre en charge de la justice du Kwango précise que c'est l'administrateur du territoire qui lui avait parlé de la situation, ce qui l'a poussé à diligenter les enquêtes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'étranger, première visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction en septembre dernier. Jean-Noël Barrot entame ce mercredi 26 novembre un déplacement qui le conduira au Tchad puis en Éthiopie. Ce voyage intervient alors que la France devrait annoncer dans les prochains mois une importante réduction de sa présence militaire sur le continent.
L'invité.
Notre invité François Sobo, coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Goma, il nous parle de la formation qui se tient depuis lundi à Goma en faveur des experts de la police technique et scientifique, des inspecteurs de la police judiciaire et des magistrats du parquet et du siège du Nord Kivu. La formation qui bénéficie de l'appui de la MONUSCO et du PNUD porte sur l'expertise balistique dans le cadre d'un procès pénal. François Sobo s'entretient ici à ce sujet avec Chris Mukand.
Monsieur François, la MONUSCO organise une formation en faveur du personnel judiciaire militaire. C'est quoi l'importance d'une telle formation?
Vous savez, nous sommes dans une région ou dans une province qui est dominée par un certain regain des activités criminelles depuis un certain moment. Dans la province et plus précisément dans la ville de Goma, il ne se passe pas un jour où nous n'apprenons pas que voilà, il y a quelqu'un qui est tué par arme. En matière pénale, la preuve est déterminante. On ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir la preuve, au-delà de doute raisonnable, de sa culpabilité. Et le juge pénal est amené à recourir à des formes de preuves, et dans la mesure où, de temps en temps, il n'a pas les moyens d'apprécier les circonstances de la commission des faits, il fait recours à ce qu'on appelle des experts. Et notamment, il fait recours à des experts en balistique, dont l'important, c'est que, voilà, on tue quelqu'un, il va falloir déterminer les circonstances dans lesquelles cette personne a été tuée, avec quelle arme, quels sont les auteurs possibles, et ensuite rassembler les éléments pour pouvoir déterminer le ou les auteurs et savoir qui est coupable afin de pouvoir donner une issue au procès.
Vous avez parlé du contexte, mais est-ce que sur le plan de la connaissance, nos acteurs de la justice avaient quand même un gap qu'il fallait combler?
Cette formation devait être faite depuis 2 ans parce qu'elle a été demandée par le premier président de la Cour militaire. C'est un besoin ressenti. Au moins 4 fois, la MONUSCO est intervenue depuis 2022. Nous avons pu aider la justice militaire à collecter et à analyser des éléments balistiques dans le cadre des procès. Nos experts en balistique et en armement ont constaté qu'il y a besoin de renforcer un certain nombre de capacités pour que la police technique et scientifique ait les moyens, je veux dire en termes de compétences techniques, pour pouvoir réaliser cette expertise sans forcément avoir recours à la MONUSCO.
Plus ou moins 1 semaine de formation, donc la matière doit être abondante.
Quand nous parlons de balistique, il y a la façon générale la balistique, mais la balistique judiciaire qui a rapport avec la matière pénale. C'est très vaste parce qu'on ne va pas seulement parler de la balistique en général, mais également son rôle dans la détermination des auteurs et de leur culpabilité. Donc ça fait intervenir à la fois les techniciens, la police technique et également les magistrats du parquet et du siège. Et je vois que les apprenants sont très intéressés parce qu'il y a un certain nombre de choses, l'utilisation des armes, la façon dont on peut déterminer qui a tiré, sur quel angle, tout cela, ça, c'est très intéressant.
À la fin de cette formation, à quoi vous vous attendez?
Vous savez, aujourd'hui, la justice à l'est du Congo, c'est très capital. Il y a un besoin en termes de demande de justice. Donc, nous espérons que les apprenants, qui sont déjà des professionnels, puissent encore renforcer suffisamment leurs compétences pour exercer mieux. Parce que la population a besoin qu'on réponde à ce besoin de justice, que les auteurs de ces crimes-là puissent réellement être appréhendés parce qu'on aura trouvé les éléments de preuve les concernant, pouvoir les identifier afin de leur imputer des responsabilités individuelles.
L'appui au secteur de la justice se limite juste au niveau de la formation ou...
Nous aidons tant la justice militaire que la justice civile. Ne serait-ce que ces derniers jours, nous aidons à tenir des audiences foraines. Le tribunal militaire de garnison a terminé des audiences qu'ils ont tenues pendant 3 semaines pour pouvoir aider à désengorger la prison. Vous savez, le nombre actuel des détenus à la prison, c'est au-delà de 4 500. Et dont un grand nombre, je dirais 80%, sont des personnes prévenues qui ne sont pas jugées. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Et dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la justice que nous mettons en œuvre avec le PNUD, nous intervenons pour pouvoir soutenir les magistrats, soutenir la justice à juger autant que se peut. Nous appuyons également à mener des enquêtes, tant dans les crimes ordinaires que dans les crimes de droit international comme le génocide, crimes de guerre, etc. Si je reviens à la matière de la formation, la MONUSCO appuie la construction d'une salle de formation pour la justice militaire qui est presque terminée. Et je crois que d'ici la fin de ce mois de décembre, ce bâtiment pourra être donné. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous le demande, d'appuyer le système judiciaire congolais afin qu'il puisse avoir les capacités nécessaires pour appréhender, juger et condamner s'il le faut les personnes auteurs présumées de crimes ordinaires ou des crimes de droit international.
Monsieur le coordonnateur, Merci que vous ayez accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et voilà, ainsi se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à Pele Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Debs Vita.